France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings. Yes, goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
C'est ça, là. On est ni moi, c'est ni moi, là. 難しい戦があるんだが、ついてくるか。はい。Did
you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, William Friedkin, la fureur du cinéma. Bonsoir. Pour la dernière de Cinéma Song, je suis heureux de recevoir un invité exceptionnel, le cinéaste américain William Friedkin, figure du nouvel Hollywood et accessoirement immortel auteur de French Connection, L'Exorciste ou Le Convoi de la Peur. Présent pour l'occasion de la ressortie en campi flambant neuf du Convoi de la Peur, Friedkin m'a donné cet entretien où il sera exclusivement question de musique en lien avec le cinéma bien sûr. Si vous ouvrez grand les oreilles, vous pourrez entendre parler de Bernard Herrmann, Miles Davis, Don Ellis, Christophe Penderecki, Lalo Schifrin, Tangerine Dream ou Jack Nitzsche, le tout avec la voix inimitable de ce natif de Chicago qui pratique également la mise en scène d'opéra, William Friedkin donc dans Cinéma Song. À la fin de cette émission, Charles-Pierre Vallière aura la charge de clore les débats avec une évocation de Poltergeist, l'ancien et le nouveau. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci. Extrait d'une musique signée Jean-Claude Vanier pour débuter ce dernier numéro de Cinéma Song. Jean-Claude Vanier, le retour. Il a été beaucoup question de Jean-Claude Vanier d'ailleurs sur France Musique à la fin de cette saison, notamment dans cette émission même il y a quelques semaines. Mais là, c'est pour célébrer la sortie du nouveau film de Michel Gondry, Microbes et Gasoil, qui sort donc mercredi prochain, le 8 juillet. Comme nous ne serons plus à l'antenne à ce moment-là, eh bien, je voulais ne pas manquer l'occasion de diffuser un extrait de la musique que Jean-Claude Vanier a composé donc pour ce film. Michel Gondry, on le le connaît, il a une carrière tout à fait étrange finalement et très atypique avec des films très variés qui vont d'un documentaire sur Noam Chomsky dans lequel il y a également du dessin, évidemment à Eternal Sunshine, le film de avec notamment Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour dire les choses clairement, ou La science des rêves, ou L'écume des jours, enfin voilà. Et Microbe et Gasoil appartient finalement à une veine que Gondry n'avait pas encore explorée, c'est celle d'une sorte de road movie. Deux adolescents, on va dire un peu marginaux, partent sur les routes en bricolant une espèce de voiture maison, donc ça donne lieu à une espèce de film assez picaresque, très sympathique, et très... Alors, en plus, une des originalités du film, c'est qu'on ne sait pas très bien si le film se passe aujourd'hui ou à la période de la jeunesse de Michel Gondry. Il y a une incertitude, je dirais, sur le temps qui est tout à fait intéressante. Et la musique de Jean-Claude Vanier, bien sûr, qui est un compositeur rare, finalement, au cinéma. On a pu le voir, enfin, l'entendre récemment ici. Il n'a pas composé énormément de musique de film. Jean-Claude Vanier, on le connaît évidemment pour des activités très liées à la chanson, notamment. Et il compose toujours des musiques très singulières qui ne ressemblent jamais, disons, au tout venant voilà, de l'esthétique de la musique de film. Et ça, cette musique ne fait pas exception dans son œuvre. En tout cas, une des raisons pour lesquelles on peut aller voir, on peut avoir envie d'aller voir Michel Gondry et notamment ce Microbe et Gasoil, c'est précisément la musique de Jean-Claude Vanier en salle, donc le 8 juillet, mercredi prochain, pour dire les choses clairement. Alors, on va poursuivre cette séquence d'actualité qui est un petit peu longue parce qu'on est en fin de saison, donc il faut un petit peu parler de beaucoup de choses pour l'été, en particulier de DVD, en particulier d'un DVD d'un film de Ken Russell qui vient de ressortir il y a quelques jours ou quelques semaines, Love, Women in Love en l'occurrence en anglais, une adaptation d'un livre de D.H. Lawrence, un film de 1969 que Ken Russell a signé avant qu'il devienne un cinéaste très très agité et un peu pompier dans les années 70, en tout cas c'est mon avis et je le partage, fait beaucoup de filmographies, de biographies, une sorte de biopic très personnel de Liszt, Listomania ou de Tchaïkovski, Music Lovers. Là, il n'est pas question de musique au sens strict du terme. C'est un film impressionnant à revoir aujourd'hui, de 1969, donc qui se passe dans les années 20, et qui fait beaucoup écho à la question de la liberté sexuelle, notamment, qui était très en vogue en 1969, bien sûr. Et c'est avec des acteurs totalement remarquables, en particulier Glenda Jackson, qui, je crois, a eu un Oscar pour le rôle qu'elle tient dans ce film, et Oliver Reed également. Et c'est un film, Alan Bates, donc de grands acteurs anglais, et une musique signée Georges Delerue, qui commençait déjà une carrière internationale alors qu'il allait se développer très largement, notamment dans les années 70-80. Et probablement que Ken Russell avait choisi Georges Delerue en lien avec François Truffaut, même si le film est assez éloigné de l'esthétique des films de Truffaut. En tout cas, c'est un film vraiment à redécouvrir si vous aimez le cinéma anglais et si vous aimez, disons, les films assez libres où la musique justement joue un grand rôle. Ben, allez regarder, acheter le DVD de Women in Love, qui est paru chez Sidonis Calista. Et pour fêter ça, on va écouter un extrait de la musique que Georges Delerue avait composée pour ce film. Thank you. Vous avez entendu, pour commencer, la musique, un extrait de la musique que Georges Delerue a composé pour le film de Ken Russell, donc Woman in Love, Love, donc 1969, qui vient de ressortir en DVD, donc chez Sidonis Calista. On peut d'ailleurs signaler également la ressortie d'un chef-d'œuvre de la série B signé Alan Dwan, 1957, des Edge of the River, avec Anthony Quinn et Roy Padgett et Remy Lant, qui est un film magnifique aussi, rien à voir avec le film de Ken Russell, mais deux films que vous pouvez vous procurer en DVD tout à fait cessante. Et à l'instant, juste après la musique donc de Georges Delerue pour ce film de Ken Russell, un extrait de la bande son du film, d'un film mythique de Ted Kotcheff, l'auteur de Rambo notamment, du premier Rambo dont on parlera, je crois, dont Charles-Pierre Valière nous parlera en fin d'émission, mais qui, avant de faire Rambo et d'autres films, avait réalisé des films intéressants, et notamment ce film qui s'appelle Wake in Fright, film australien, donc pour cet anglais natif, en tout cas Ted Kotcheff, qui réalise ce film donc mythique, parce que d'abord il avait été effectivement vu à l'époque en 1971 comme un film important, sélectionné au Festival de Cannes, avec aussi un certain succès dans les salles, puis ensuite c'est un film qui a disparu pendant presque 40 ans et qui est réapparu grâce à Martin Scorsese à la fin des années 2000 et qu'on peut enfin découvrir dans une très très belle version DVD. C'est une sorte de délivrance australien, l'histoire d'un instituteur qui doit retourner à Sydney, qui enseigne au fin fond de l'outback, donc pratiquement dans le désert australien, et qui va être confronté à une sorte de retour de la sauvagerie avant son retour à Sydney, où d'ailleurs il ne retournera pas. Je n'en dis pas plus, c'est un film étonnant, assez qui procure un certain malaise, et qui bénéficie d'une très très belle musique d'un musicien pas tellement connu mais assez passionnant qui s'appelle John Scott, et qui a entre autres, alors qui a fait beaucoup de musique de films avec des gens comme Roger Spottiswoode, Norman Jewison et plein d'autres cinéastes américains, mais qui a aussi la particularité d'avoir été le premier musicien extérieur au quartet de base, qui a joué avec les Beatles, donc notamment des parties de flûte alto et flûte ténor sur You've Got to Hide Your Love Away, voilà, pour être précis, qui a également joué avec Yehudi Menuhin, Ravi Shankar et Nelson Riddle. Donc voilà un personnage intéressant qui a produit une très belle musique, donc un peu psychédélique pour ce film de 1971, qui d'ailleurs l'est aussi un peu psychédélique, et en tout cas un film tout à fait passionnant, qui sort en DVD donc chez l'Arabia, signalé aussi d'ailleurs chez l'Arabia Wildside, et chez Wildside on peut également découvrir deux films de John Flynn, qui est un cinéaste culte, notamment pour Quentin Tarantino, notamment un des films préférés de Tarantino qui s'appelle Rolling Thunder, en français Légitime Violence, qui est un film tout à fait intéressant, qui passe son lien, disons, entre Taxi Driver et Rambo, justement, avec un scénario de Paul Schrader, et également Pacte avec un tueur, film des années 80, tout à fait intéressant, avec James Woods et Brian Dennehy, donc que des belles choses pour passer l'été avec des DVD passionnants et des bandes-son passionnantes. Alors, pour finir cette tour d'horizon d'actualité, avant de passer à William Friedkin, on va écouter des musiques de films, en tout cas une musique de film qui vient d'être, elle aussi, également rééditée chez Music Box Records. C'est la musique, alors, rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre, c'est Pierre Bachelet, donc on connaît plutôt pour des choses qui n'ont pas tellement de lien avec le cinéma, et bien pourtant il a composé pas mal de BO, notamment à fin 70, début 80, et pas seulement celle d'Emmanuel, et surtout les deux premiers films de Jean-Jacques Haneau, La Victoire en chantant et Coup de tête, bien loin de ce que Haneau a fait plus tard, des films qui ont beaucoup plus petit budget, et des musiques plutôt vraiment réussies de Pierre Bachelet, notamment pour La Victoire en chantant. Je vous propose d'en écouter un extrait, puis après on écoutera une petite gâterie, si je puis dire, de Henri Mancini, pour un coffret dont je vous parlerai juste après. Thank you. Un petit Henri Mancini au début de l'été, ça fait jamais de mal, même en hiver d'ailleurs. Mancini, vous aurez sûrement l'occasion d'ailleurs de le retrouver sur cette antenne cet été entre 19h et 20h, tous les jours ouvrables avec Laurent Valeyron en juillet ou avec moi-même en août pour Easy Tempo. Et ce petit morceau de Mancini s'appelle Swing Lightly. Il n'est pas signé, enfin il ne vient pas d'une bande originale, mais il figure dans un coffret de deux CD qui vient de paraître chez Frémo et Associés qui s'appelle Henri Mancini From Glenn Miller's Story to the Pink Panther, où l'on retrouve bien évidemment des extraits de bandes originales qui sont pour certaines d'entre elles assez célèbres comme Moon River par exemple, bien sûr la série Peter Gunn ou Touch of Evil, La Soif du Mal bien sûr de Orson Welles qu'on découvre en ce moment, mais également des enregistrements de Mancini de la fin des années 50 et du début des années 60, dont celui-ci qui je crois faisait partie initialement d'un disque qui s'appelle Combo. Et la particularité entre autres de ce morceau, c'est que vous avez pu entendre une partie de clavecin qui était tout simplement jouée par John Williams, qui n'était pas encore le compositeur de Harry Potter, Star Wars et ainsi de suite, mais qui a fait beaucoup de choses, notamment dans le jazz et notamment sous la houlette d'Henri Mancini. Puis auparavant, vous avez entendu donc cet extrait de La Victoire en chantant, la bande originale, cette petite rengaine de Pierre Bachelet assez sympathique pour cette bande originale de La Victoire en chantant qui figure donc sur cette réédition d'une double musique de Pierre Bachelet pour La Victoire en chantant, Écoute tête de Jean-Jacques Hano chez Music Box Records. Et on peut signaler également la réédition intégrale de la musique de la série Mississippi de Antoine Duhamel qui a disparu il y a quelques mois, dont sur le même label Music Box Records. C'est tout pour l'actualité et place à William Friedkin.
Thank you.
thème du film Sorcerer, le convoi de la peur en français. Le film est signé William Friedkin et la musique est signée Tangerine Dream, donc ce trio allemand dont le fondateur Edgar Froese est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Sorcerer, le convoi de la peur, c'est notamment l'objet de l'émission de ce soir, mais c'est surtout la rencontre avec William Friedkin qui est l'objet de l'émission de ce soir, Cinéma Song. Et Sorcerer ressort donc dans une copie jamais vue au fond, en tout cas depuis sa sortie, Director's Cut, donc pour cette ressortie le 15 juillet, William Friedkin, donc qui est l'auteur, on l'a dit déjà, de notamment L'Exorciste ou French Connection, c'est-à-dire quand même des films assez qui pèsent lourd dans le cinéma américain des années 70, a réalisé ce film justement après l'énorme succès de ces deux films célébrissimes. Et Le Convoi de la Peur, donc Sorcerer en anglais, qui est un film assez hallucinant, qui est une sorte de remake de, enfin qui est un remake ou en tout cas une nouvelle adaptation du roman de Jean-Georges Arnaud que Henri-Georges Clouzot avait adapté en 1954, donc Le Salaire de la Peur. Et William Friedkin en a fait un remake qui n'est pas tout à fait un remake, qui est une relecture de la même, du même thème, avec des références au Trésor de la Sierra Madre de John Huston, et puis une vision complètement hallucinée voilà, de ces routes dans la forêt amazonienne, de ce climat totalement étrange, avec ces quatre personnages qui essayent voilà, d'une certaine façon de gagner leur argent pour comme une sorte de rédemption. Et bon, il faut absolument découvrir ce film en salle à partir du 15 juillet avec une musique de Tangerine Dream qui joue un rôle extrêmement important. On va en reparler, ou plus exactement William Friedkin va en reparler, mais nous allons revenir un peu aux sources, notamment aux sources musicales de William Friedkin pour ce premier morceau d'entretien où il nous parle un peu de ses débuts, de ses intérêts musicaux dans sa ville de Chicago, sa ville natale, et puis également de la musique que le trompettiste jazz Don Ellis, grand trompettiste de jazz, a composé pour French Connection quelques années plus tard. William Friedkin.
When I grew up in Chicago,
j'ai grandi à Chicago.
I used to listen to jazz music live.
Et quand j'étais jeune, j'allais souvent écouter des concerts.
Really good jazz clubs in Chicago.
Il y avait de très bons clubs de jazz à Chicago.
Miles Davis, Duke Ellington, Stan Kenton.
Et j'allais souvent écouter Miles Davis, Duke Ellington, Stan Kenton, Artie Shaw. Des musiciens parmi les plus grands jazzmen de l'époque qui venaient à Chicago et que j'allais voir en concert.
On the south side of Chicago, in the
il y avait aussi un club dans le sud de Chicago, dans le quartier noir américain, qui n'était vraiment pas plus grand que cette pièce. Et dans ce petit club, j'ai pu entendre Muddy Waters. C'était le fondateur du Mississippi Delta Blues. Cette musique qui a beaucoup inspiré des gens comme les Rolling Stones, par exemple. Avec le temps, quand j'ai commencé à travailler pour la télévision, je concevais et produisais le programme du Chicago Symphony Orchestra. À l'époque, Fritz Reiner était chef d'orchestre. À cette époque, j'ai donc eu accès à de la grande musique classique qui ne m'a pas quitté jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'écoute surtout de la musique classique et puis j'ai aussi mis en scène des opéras. Je crois que j'ai dirigé une quinzaine d'opéras en 15 ans. Je vais mettre en scène Aïda à Turin en septembre. On ouvre la saison de l'opéra de Turin en octobre en Italie. Mais j'ai aussi mis en scène des opéras de Verdi, de Puccini, de Saint-Saëns, notamment Samson et Dalila à Tel Aviv, et puis en plein air à Timna, qui est la région originaire de Samson. Et puis j'ai mis en scène l'opéra d'Alban Berg, Wozzeck. Donc j'ai une expérience musicale assez large.
Thank you.
Il y avait un club à Los Angeles, c'était au début des années 70, et Don Ellis y jouait tous les lundis soirs avec ce qu'on appelle maintenant un groupe workshop, un groupe de répétition, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas payés. Ils étaient 30 musiciens, voire plus, à jouer des instruments amplifiés.
Listening to Don Ellis was the first time I heard electric instruments, electric drums, electric.
Et c'est en écoutant Don Ellis que j'ai entendu pour la première fois des instruments amplifiés.
And he played with this live band.
Des percussions électriques, des trompettes électriques, des instruments à cordes électriques.
And complicated time signatures.
Et il jouait avec ce groupe en concert tous les lundis soirs. Avec des mesures composées. Très complexe et vraiment unique, loin des rythmiques et des tempos habituellement entendus. C'était du jazz, mais du jazz classique. Et j'allais l'écouter tous les lundis soirs. Le club s'appelait Nucleus Nuance. Il y avait toujours beaucoup de monde, toujours un gros public qui venait écouter cette musique. Et juste avant de tourner French Connection, j'ai eu l'idée de demander à Don Ellis de faire la musique du film, parce qu'il n'avait jamais composé pour le cinéma. Et moi, je n'avais jamais entendu ce genre de musique dans un film auparavant. Alors je me suis présentée à lui. Il était très jeune, comme moi, et très timide. Et il a accepté ma proposition. C'était sa première musique de film. Et comme il avait toujours utilisé beaucoup de cuivre dans ses textures sonores, je lui ai suggéré de faire le même genre de son, mais avec des cordes. Il a aimé cette idée, et c'est comme ça qu'il a fait French Connection, puis la musique pour un autre film du même producteur, qui s'appelait Police Puissance 7. Mais je ne pense pas qu'il en ait fait beaucoup d'autres, parce qu'il est mort très jeune. Mais ces albums circulent toujours aujourd'hui et ils sont géniaux. Je pense que le monde n'a pas encore mesuré l'ampleur de sa musique.
Thank you.
extrait de la géniale musique de Don Ellis pour le non moins génial French Connection de William Friedkin, un extrait qui s'appelait Subway, une BO vraiment magnifique à redécouvrir, qui était paru il y a quelques années sur le label Film Score Monthly. On a écouté un autre morceau de Don Ellis auparavant, extrait d'un album qui n'est pas lié au cinéma, qui s'appelle Autumn, et un morceau qui s'appelle Child of Ecstasy, et William Friedkin donc faisait l'éloge de ce grand musicien un peu méconnu finalement, et de ses goûts musicaux naissants sur le jazz et la musique classique. On va le retrouver, William Friedkin, tout de suite pour parler d'une expérience complexe qu'il a pu avoir avec la musique de L'Exorciste. L'Exorciste, évidemment, c'est un film que tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'a pas forcément vu. Et ça a été une aventure compliquée et intéressante que William Friedkin raconte, où on croise notamment Bernard Herrmann et Lalo Schifrin pour des musiques qui ne vont pas forcément être celles que William Friedkin aura choisies pour L'Exorciste. William Friedkin, tout de suite.
France Musique. Le plus grand compositeur de musique de film est pour moi Bernard Herrmann. Il a beaucoup composé pour Alfred Hitchcock, Orson Welles. Il a fait la musique de Citizen Kane, de Psychose et de beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Il vivait en Angleterre quand j'ai terminé L'Exorciste. Il avait quitté les États-Unis parce qu'il était déçu par le cinéma et les réalisateurs américains. Mais je l'ai contacté pour lui dire que j'avais fait ce film et que je voulais lui montrer. Je lui ai dit, je viens à Londres et je vous fais une projection. J'avais mis de la musique temporaire sur ce film, que j'avais choisi à l'époque parmi des compositeurs classiques contemporains, comme Christoph Penderecki, Hans Werner Henze, George Crumb, Anton Webern. Donc j'ai apporté à Bernard Herrmann la version de travail du film avec la musique temporaire. Il l'a visionné, puis il est sorti, et il m'a dit, « Bon, je peux probablement faire quelque chose pour vous aider, mais laissez-moi le film, je vous enregistre une musique, et puis je vous l'envoie. » Je lui ai dit, « Alors, ça ne vous intéresse pas de savoir ce que je pense de la musique dans le film? À quel moment elle devrait se trouver? De quel genre ?» Il m'a répondu, « Non, ça ne m'intéresse pas. Combien de films avez-vous fait ?» m'a-t-il demandé. J'ai dit 4 films. Et là, il m'a dit, écoutez, j'ai composé des dizaines de musiques de films. J'en ai fait plus que ma mémoire ne peut le retenir. Et j'ai composé pour des émissions de radio. Et vous, vous allez me dire quel genre de musique vous voulez que je compose? Alors j'ai dit, non, mais je suis très attachée à mon film et j'ai quelques idées. Il m'a dit, vos idées ne m'intéressent pas.
Do what would you have in mind? He said, "There is a church in one of the suburbs."
Je lui ai dit, bon, eh bien, donnez-moi un exemple de ce que vous pensez faire.
St. Giles Cripplegate.
Et il m'a répondu.
And he said they have the greatest organ I've ever heard there.
Dans la banlieue de Londres, il y a une église qui s'appelle St. Giles Cripplegate. Et ils ont là-bas le meilleur orgue d'église que j'ai jamais entendu. Et je pourrais utiliser le son de cet orgue. Et j'enregistrerai la musique du film dans cette église. Ce serait magnifique. Je lui ai répondu, vous voulez utiliser un orgue d'église dans L'Exorciste? Il a répondu, oui, c'est mon idée. Je me suis levée, je lui ai dit, « Monsieur Herrmann, je pense que c'est un cliché, mais merci de m'avoir permis de rencontrer une personne intéressante. » Je lui ai serré la main et je suis partie. Au final, j'ai utilisé des extraits des morceaux que j'avais sélectionnés pour la musique temporaire. J'ai fait ma propre bande originale, avec des passages choisis, des musiques, des compositeurs dont je vous parlais tout à l'heure.
Lalo Schifrin et moi nous connaissions de Chicago.
Et qu'en est-il de Lalo Schifrin? Je suis allé voir Lalo Schifrin après Herrmann. Je connaissais Lalo Schifrin de Chicago. Il était argentin, mais à l'époque, c'était le pianiste de l'orchestre et du petit groupe de Dizzy Gillespie. J'allais souvent dans ce club de jazz dont je vous parlais, et c'est là que j'ai rencontré Lalo. Nous sommes devenus amis, on avait le même âge. Lui, il disait « Un jour, j'aimerais bien composer pour le cinéma », et puis moi, je lui disais « Ah, un jour, j'aimerais bien réaliser un film ». Et puis ensuite, je suis allée à Hollywood. Mais il y est allé avant moi et il a connu un grand succès avant même que j'aie réalisé mon premier film. Donc, quand j'ai décidé de ne pas travailler avec Herman, je me suis tournée vers Lalo. Et je lui ai fait écouter la même musique, Webern, Penderecki, etc. Donc je lui ai dit, c'est ce genre de choses que je voudrais. Je ne veux pas des grosses pulsations ou des mélodies ou le type de rythmique que tu fais avec Dizzy.
Just tonal passages and very simple.
Je voudrais que la musique soit comme une main glacée qui se pose sur ta nuque, avec juste des passages tonaux, mais une musique presque invisible, très simple. Presque invisible comme chez Anton Webern. Il m'a dit, oui, ok, c'est génial. Donc le premier jour d'enregistrement, je vais au studio, et là, il y avait 90 musiciens, tous amplifiés, avec 5 percussionnistes et des cuivres partout. J'ai écouté les 2 ou 3 premières répliques depuis la salle de contrôle, et puis je suis sortie, je suis allée dire à Lalo, écoute, ce n'est pas du tout ce dont on avait parlé. Il m'a dit, non, mais c'est comme ça que je vois et que j'entends les choses. Je lui ai dit, je suis désolé, je n'entends pas les choses comme ça. Tu peux encore changer ? Il nous reste 3 jours d'enregistrement prévu avec 90 musiciens. Il m'a répondu, non, je ne peux pas changer et puis je n'ai pas envie de changer. Je lui ai dit, merci beaucoup, au revoir. Et c'est là que j'ai décidé d'utiliser la musique dont je vous parlais. Lalo Schifrin et moi ne nous sommes plus jamais adressés la parole. J'étais mortifiée que ça se soit passé comme ça, et je le suis toujours aujourd'hui. Mais il fallait que j'aie la musique que j'avais en tête pour ce film. Je ne pouvais pas faire de compromis. Ce n'était pas la vision de quelqu'un d'autre, et ça ne l'aurait jamais été. C'était ma vision de l'histoire. Donc j'ai conservé ces extraits de la musique temporaire que j'avais choisie, au départ pour montrer au compositeur ce dont j'avais envie.
Jack Nitzsche was an arranger who lived in San Francisco.
Jack Nitzsche était un arrangeur qui vivait à San Francisco.
Some of the pop music.
Il avait travaillé sur beaucoup d'albums des stars de l'époque.
And I knew him. I liked him. He was a very funny guy.
Et je le connaissais. Je l'aimais bien. Il était très drôle. Et bien sûr, il me fallait quelqu'un pour créer un lien entre les musiques que j'avais sélectionnées pour l'exorciste. Il me manquait des morceaux. Donc je suis allée voir Jack pour qu'il m'écrive des musiques additionnelles. Donc il y a une des choses qu'il a faites, ce sont les accords qui ouvrent l'exorciste. Eh bien, c'est Jack Nitzsche qui frotte un verre de vin, de très bon vin. Donc il a frotté le verre pour créer des tons musicaux et j'ai utilisé ça pour le début de l'exorciste. Et puis j'ai utilisé d'autres petits sons qu'il avait créés et des petits motifs musicaux un peu étranges juste pour entremêler les musiques du film.
The soundtrack that augmented the music of Webern, Penderecki, Crumb.
Et puis pour augmenter l'effet de la musique de Webern ou de Penderecki ou de Crumb.
De la bande-son de l'exorciste auquel ont contribué Jack Nitzsche, dont parlait William Friedkin juste avant, et Christophe Penderecki, donc, qui est un des contributeurs de la musique que finalement William Friedkin a retenu pour l'exorciste. On a écouté d'ailleurs un extrait du Canon for Orchestra and Tape, qui figure justement dans la BO de l'exorciste, aux côtés, comme le disait Friedkin, de Hans-Werner Henze, Anton Webern, par exemple. Et on a entendu évidemment William Friedkin parler notamment de ses expériences avortée avec Bernard Herrmann et Lalo Schifrin pour donc ce film mythique L'Exorciste, donc signé William Friedkin en 1974. William Friedkin, donc que j'ai rencontré donc il y a deux semaines lors de sa venue à Paris, et ses propos d'ailleurs sont traduits par Valentina Gardet. On va le retrouver, William Friedkin, tout de suite à propos justement du film qui ressort le 15 juillet, Sorcerer, le convoi de la peur, et notamment à propos du choix du titre de ce film qui est assez étonnant, et également de la musique, bien sûr, que Tangerine Dream, le groupe allemand, a composée pour ce film.
About Sorcerer, I read
au sujet du titre anglais du Convoi de la peur, Sorcerer, j'ai entendu dire que c'était une référence à l'album de Miles Davis Sorcerer, du même nom. Est-ce que c'est vrai?
That was one of the reasons.
C'était une des raisons. Le premier titre auquel j'avais pensé pour le film, c'était Ball Breaker. Vous comprenez la référence? Ce sont les valseuses. Voilà, c'est le mot pour les testicules, les valseuses.
Les valseuses.
The studio said.
Mais le studio a dit, c'est ridicule, on n'utiliserait jamais un titre pareil. Et pourtant, il y a bien un film qui est sorti avec ce titre plus tard, ou même avant, je ne sais plus. Donc ensuite, J'ai failli l'appeler Dynamite.
And it turned out that that title had been used before.
Mais il se trouvait que ce titre était déjà pris et qu'il était sous copyright. Donc moi, je n'avais plus aucune idée de titre. Ça ne pouvait pas être Le salaire de la peur, parce que mon adaptation du roman de Georges Arnaud est trop différente de celle d'Henri-Georges Clouzot. Bien qu'elle soit inspirée du film de Clouzot, j'ai construit une histoire différente, avec des personnages, des dialogues différents, un début, un milieu et un final différent. Donc je ne voulais pas l'appeler Le salaire de la peur. Et puis à l'époque, j'écoutais cet album de Miles Davis qui s'appelle Sorcerer. Et puis nous avions déjà nommé les camions comme ça. Comme aux États-Unis, les chauffeurs américains qui peignent leurs camions de la couleur qu'ils préfèrent et puis qui leur donnent un nom. Ça peut être le nom d'une chose, ou de leur femme, ou de leur fiancé, ou encore de leurs enfants. Donc ils donnent un nom à leur camion. Et l'un des camions que j'avais vu s'appelait Sorcerer. Et comme j'écoutais l'album Sorcerer de Miles Davis, j'ai décidé que ça pouvait être un bon titre. Ce que ça signifie ? Eh bien, j'imagine que ça peut vouloir dire, selon la définition du dictionnaire, pour sorcerer, un sorcier, c'est un magicien maléfique. Et dans le cas du film, le magicien maléfique, c'est le destin.
Thank you.
I was in Germany for the openings of The Exorcist. And I heard about this group of young...
J'étais en Allemagne pour la première de L'Exorciste.
In an abandoned church.
Et j'ai entendu parler de ce groupe de trois jeunes types qui devaient jouer dans une église abandonnée en forêt noire à minuit, quelques jours plus tard. Le jeune homme que j'ai rencontré qui m'a parlé de ce groupe a vraiment éveillé ma curiosité. Donc je suis allée là-bas avec lui. On a conduit pendant la nuit pour arriver en forêt noire à minuit, dans cette vieille église où il n'y avait aucune lumière. Mais il y avait des centaines et des centaines de gens qui étaient là silencieux, comme en plein recueillement. Et puis ces trois types sont arrivés et ils ont joué de leurs trois instruments électriques. On aurait dit qu'ils jouaient la musique des sphères. C'était incroyable, je n'avais jamais rien entendu de pareil. Et le groupe s'appelait Tangerine Dream. Et leur leader était un homme qui s'appelle Edgar Fraser. Je l'ai rencontré après le concert et je lui ai dit, écoutez, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme prochain film, mais dès que j'ai un scénario, je vous l'envoie et je veux que vous écriviez vos impressions sur ce que je vous ai dit du film et sur ce que vous interprétez du scénario. Je ne veux pas vous montrer le film d'abord pour vous laisser composer ensuite. Je veux que vous soyez libre de créer votre propre interprétation d'après ce que vous aurez lu et d'après ce que je vous aurai dit. Et c'est ce qu'on a fait. Quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé des heures de musique, parmi lesquelles j'ai sélectionné les morceaux qu'on entend dans le film.
Un extrait de la bande originale de Sorcerer, le convoi de la peur en français, donc signé Tangerine Dream pour la BO, le film est bien sûr signé William Friedkin, qui est notre invité ce soir dans Cinéma Song, qui a évoqué bien sûr cette collaboration avec Tangerine Dream, ainsi que notamment le choix de du titre Sorcerer en référence avec l'album éponyme de Miles Davis, dont on a écouté le morceau titre précisément, enfin un extrait en tout cas, The Sorcerer, dont la composition a été signée Herbie Hancock dans le fameux quintet de Miles Davis avec bien évidemment Ron Carter, Tony Williams et Wayne Shorter et Herbie Hancock et Miles Davis. On va retrouver pour une dernière série William Friedkin, donc pour la fin de cet entretien où il va être question de sa collaboration avec Ennio Morricone pour un film de 1987, Rampage, Le sang du châtiment. Il sera également question du film Police fédérale Los Angeles to Live and Die in LA en 1985 et puis plus près de nous, la collaboration avec le compositeur Tyler Bates pour le dernier film à ce jour, en tout cas, de William Friedkin, Killer Joe. On retrouve tout de suite William Friedkin.
J'adore les musiques de Morricone, en particulier celles pour les films de Sergio Leone et celles du Bon, la brute et le truand.
Another great score of his was for a film.
Et puis une autre musique géniale pour ce film d'Elio Petri qui s'appelle Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Morricone did that score, which is fantastic and dynamic.
C'est un film avec Gian Maria Volonté et c'est Morricone qui en a composé la musique, qui est fantastique, très dynamique. Elle emporte vraiment le film, tout comme il le faisait dans les westerns de Sergio Leone. Donc je lui ai demandé qu'il compose pour Le sang du châtiment en m'attendant au même type de musique. Une musique qui emporte et qui rythme le film. Donc je lui ai fait voir le film et lui, il l'a vu comme une tragédie, comme une grande tragédie, mais pas comme un film avec un thème directeur. Donc il a fait exactement l'inverse de ce que je lui avais demandé. Mais j'ai quand même gardé sa musique parce que j'avais énormément de respect pour lui en tant que personne et en tant que compositeur. Et je me suis dit, bon, c'est comme ça qu'il a vu ou entendu le film. Ce n'est pas du tout ma vision des choses, mais c'est une musique de Morricone. Avant de réaliser Police fédérale Los Angeles, j'étais en Angleterre à Londres. J'avais entendu leur premier album qui s'appelait Points on a Curve. Voilà, une courbe, c'est rond, et puis il y a des points sur une courbe. Et j'avais trouvé ça génial. C'était de la pop, mais très futuriste pour l'époque, et vraiment très unique. J'ai écouté leurs chansons parce qu'elles passaient tout le temps à la radio. Ce n'étaient pas de mystérieux types qui jouaient en forêt noire, eux. Ils étaient vraiment populaires. Mais j'adorais leur son. Ils n'étaient que deux, Jack Hughes et Nick Feldman. Et ils créaient ce son génial et jouaient de ces instruments en enregistrant en overdub. Et ils chantaient aussi. Donc je leur ai commandé la même chose qu'à Tangerine Dream. Je leur ai dit, je vous envoie un scénario et je vous parle du film. Et puis vous m'écrivez vos impressions et votre interprétation. Et puis on choisira la musique dans ce que vous aurez composé. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, on a sélectionné les morceaux que je voulais et ils en avaient écrit beaucoup plus que ce que j'ai utilisé, et sans avoir vu le film. Puis ils sont venus à Hollywood, à Los Angeles, où je travaillais, pour voir le film, et ils ont beaucoup aimé la façon dont j'avais utilisé leur musique. Mais je leur ai dit de ne surtout pas m'écrire une chanson qui s'appellerait « To live and die in L.A. » parce que je ne voulais pas une chanson pop avec ces mots-là, les mots du titre du film. Et deux jours plus tard, ils m'ont apporté une chanson qu'ils avaient composée et là je leur ai dit « Oh non !» Et c'était « To live and die in L.A. » On a écouté la cassette et la chanson s'est imposée à moi petit à petit. Elle me restait en tête et je leur ai dit « C'est génial !» Donc ensuite, j'ai tourné des images additionnelles juste pour aller avec leur chanson, pour qu'elle soit dans le film. Et c'est devenu un grand tube aux États-Unis et dans le monde. Mais vraiment, au début, je ne voulais pas qu'ils fassent ça.
Every time.
Tyler Bates had a great musical background.
Tyler Bates a une culture musicale immense et toutes les références que je lui suggérais lui étaient familières. Donc il a enregistré chez lui des choses que j'allais écouter ensuite. Il avait beaucoup d'instruments à cordes très étranges venant de différents pays et il s'est servi de ces instruments avec lesquels il pouvait obtenir un son très subtil et vraiment inhabituel. Donc on n'arrêtait pas d'expérimenter des choses. J'allais chez lui et puis il jouait quelque chose. Je lui disais, oui, oui, ça c'est bien, plus comme ça. Et puis il essayait autre chose et je lui disais, oh non, non, ça va pas. Et petit à petit, en expérimentant, on est arrivé à cette musique de film très subtile pour Killer Joe. Ce n'est pas de la musique exagérée. Elle ne vient pas souligner l'effet dramatique. Et puis ensuite, j'ai aussi utilisé une ou deux musiques additionnelles qui n'avaient rien à voir avec ses compositions.
Thank you very much. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you.
De la musique de Killer Joe, le dernier film en date de William Friedkin, musique signée Tyler Bates, donc évoquait juste avant William Friedkin. On a également entendu la chanson de Wong Chung, le groupe, enfin le duo auteur de la musique de To Live and Die in L.A., Police fédérale Los Angeles, en français, 1985, la chanson titre To Live and Die in L.A., et également un extrait de la bande originale de Rampage, Le sang du châtiment, une bande originale signée Ennio Morricone, évoquée également par William Friedkin, qui était notre invité ce soir. C'est fini avec William Friedkin, mais j'étais vraiment ravi pour cette dernière Cinémasong d'avoir eu l'occasion de converser avec ce grand cinéaste et grand amateur de musique. Donc c'était bien pour boucler la boucle, mais la boucle n'est pas tout à fait bouclée puisque Charles-Pierre Vanier est dans les studios pour sa dernière chronique dans Cinémasong. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
« Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, pour cette dernière de Cinéma Song, eh bien, je voulais, Thierry, passer pour cette occasion la musique de Jerry Goldsmith, dont évidemment le générique est utilisé pour Chinatown. Enfin, le générique
bouclé, vraiment la boucle.
Absolument. Et donc, en fait, j'ai la chance, puisque dans l'actualité des bandes originales, il y a la sortie du film Poltergeist, enfin, la semaine dernière plus précisément. Poltergeist, qui est un remake donc du fameux Poltergeist qui était lui sorti en 1982. Alors là, le réalisateur, c'est Jill Keenan, qui a réalisé ce Poltergeist donc 2015. Jill Keenan qui s'est illustré plutôt dans les films d'horreur, puisqu'elle fait Monster House et puis La Cité de l'Ombre. Et c'est Mark Stretenfeld, donc le compositeur, qui a fait la musique de ce Poltergeist 2015. Mark Stretenfeld, on le connaît mieux justement parce que depuis 2000, en fait, il travaille beaucoup avec Ridley Scott. C'est lui qui a fait la musique de Prometheus, Body of Lies, American Gangster ou encore Robin des Bois. Et donc pour ce Poltergeist 2015, Stretenfeld a fait le boulot comme il faut. Alors des passages stridents, d'autres plus énigmatiques que fantomatiques, dans un genre toujours électro-orchestral. Vers la fin du film d'ailleurs, Stretenfeld s'essaye un petit peu à la mélodie, mais on sent que c'est pas trop son truc quand même. Il est meilleur dans le genre sound design. Donc c'est une musique qui est là pour nous surprendre, plus que pour nous apporter une lecture supplémentaire donc de ce film d'horreur qui est bien mené, mais qui demeure assez conventionnel et dont on retiendra plus en fait des aspects visuels qui sont liés aux effets spéciaux, où il y a vraiment de très belles images, plus que pour la bande originale. Un extrait de la bande originale du film Poltergeist, donc sorti en 2015, enfin la semaine dernière.
C'est pas du Vladimir Kosma. Hein.
Non, pas tout à fait. C'est vrai. Hein. C'est vraiment fait pour surprendre et pour quand même faire peur. Même si le film, malgré tout, même si un film d'horreur, fait pas si peur que ça. Il faut bien l'avouer.
Vous êtes blasé, c'est pour ça.
Peut-être un peu. Donc en tout cas, maintenant justement, je voudrais vous parler de la bande originale de Poltergeist, cette fois-ci sortie en 1982, réalisée par Tobe Hooper, qui avait fait donc Massacre à la tronçonneuse, sur un scénario de Steven Spielberg et produit par Steven Spielberg. Alors au départ, ça devait être John Williams qui devait faire cette musique de Poltergeist. La seule chose, c'est que Williams était occupé à faire la musique d'un autre film, E.T. l'extraterrestre. Donc Steven Spielberg, qui avait quand même travaillé sur ces deux films en fait au même instant, enfin au même moment, avait besoin d'un compositeur. Il avait beaucoup aimé la musique de Goldsmith pour A Patch of Blue en sortie en 65, et donc il a fait appel à Goldsmith pour Poltergeist. Seulement, il faut pas oublier justement de rappeler que Goldsmith est un des pionniers de la bande originale à s'affranchir vraiment du système tonal dans les années 60. Il a justement conservé ce style qui est à la fois fait donc de musique tonale ou atonale, de musique très rythmée ou complètement arythmique dans son cinéma, enfin dans les films où il a fait la musique, en particulier pour les films de science-fiction. Là, on se souvient de La Planète des Singes, de Alien, Star Trek et dans une certaine mesure Total Recall. Goldsmith aussi est très influencé par le jazz, par donc cette musique atonale du 20e siècle. Et pourtant, justement, l'orchestration et en particulier dans celle de Poltergeist, eh bien, il est beaucoup plus proche de Debussy, de Ravel. On oscille entre Daphnis et Chloé, Péléas et Mélisande. C'est un univers sonore vraiment fait de couleurs et de sensations, où justement il entretient ce monde onirique. Goldsmith est vraiment, à mes yeux, un des seuls génies de la BO, vraiment, à pouvoir à la fois exceller dans différents genres, comme la musique classique, le jazz ou encore la musique contemporaine, et en même temps donc utiliser des matériaux très avant-gardistes, très dissonants, et en étant un mélodiste de génie également. Et Spielberg, justement, disait de la musique de Goldsmith pour Poltergeist qu'il, très intelligemment, en fait, les moments de grande tension survenaient non pas grâce à des rythmes brisés ou suspensifs ou des ostinatos, mais, comme le dit Spielberg, grâce à une beauté sonore apaisante.
Voilà un extrait de la bande originale du film donc Poltergeist, cette fois-ci composé par Jerry Goldsmith en 1982, donc pour ce film de Tobe Hooper. Et donc juste une dernière chose que disait Spielberg, ne faites pas confiance à ces mélodies, donc à celles de Jerry Goldsmith, parce qu'elles vous attaquent lorsque vous avez baissé la garde. Vraiment. Une bande originale à se procurer.
Vous vouliez parler très brièvement aussi d'une autre ressortie avec une musique de Jerry Goldsmith.
Exactement,
également.
C'est celle de Rambo.
Ted Kotcheff
qui ressort le 15 juillet. Merci Thierry. Voilà. C'est vrai. Et un film aussi très très beau, enfin, à voir avec la musique de Goldsmith, tout à fait.
Voilà, bon, bah, en tout cas, Charles-Pierre, merci pour votre chronique et merci pour vos chroniques. On vous retrouvera d'ailleurs à la rentrée dans une autre formule, on en reparlera. Donc, CinémaSong disparaît mais renaîtra d'une autre façon. Et on vous retrouvera aussi pas mal pendant l'été sur France Musique avec des concerts. Notamment.
Avec des concerts, absolument. Et les plus belles salles du monde.
Voilà, on aura l'occasion de vous entendre. Et puis, on retrouvera également Laurent Valero à partir de lundi, tous les jours à 19h, tout le mois de juillet, tous les jours, en tout cas, ouvrables, du lundi au vendredi. Je prendrai le relais au mois d'août pour le même régime, entre guillemets, Easy Tempo, donc toujours du lundi au vendredi. Puis à la rentrée, voilà, je disais, on en reparlera. En tout cas, ce soir, j'étais en compagnie. Dorothée Gol m'avait aidé à préparer cette émission. Antoine Giraud, Elisabeth Gornet nous accompagnaient. Mathieu Tourin était à la technique. Et l'imparable Bruno Rioux-Maillard qui a réalisé la très grande majorité des émissions de CinémaSong pendant ces 4 saisons, comme Vivaldi d'ailleurs, voilà, était là donc avec nous ce soir pour réaliser donc ce CinémaSong. Je dis donc au revoir aux auditeurs de CinémaSong.